Voilà, mes amis, nous allons reprendre notre cours de Zohar. Et comme je l'ai déjà annoncé, nous avons chaque semaine, sauf quand il y a vraiment un empêchement, un cours de Tanya, un cours de Zohar. Et cette semaine, il y aura aussi un cours sur le roi David. Et voilà, donc aujourd'hui, cours de Zohar, c'est le troisième cours de Zohar aujourd'hui. J'ai hier fait un cours de Tanya que j'ai déjà monté sur le site aujourd'hui. Et donc, on continue. J'espère que vous écoutez avec beaucoup d'attention les cours de Tanya, les cours de Zohar, les cours sur le roi David, ainsi que bien sûr les autres cours, car ce sont des cours très importants, d'une grande profondeur. Vous avez remarqué aussi que le cours de Tanya, le cours de Zohar, ainsi que le cours sur le roi David, je l'ai fait entre 35 et 40 minutes. Parce que comme ce sont des cours, on pourrait dire, d'une grande profondeur et qui dévoilent des notions très importantes, je ne veux pas que le cours soit trop long, parce que dans ce cas-là, vous n'arriverez pas à retenir les points essentiels que je dévoile devant vous. Alors on continue le Zohar. Ulbatar Idkar Zimna Achara. Le nom Elohim est mentionné une troisième fois et le Matok Midvash explique. C'est la troisième fois, c'est quand il est marqué « Veruar Elohim merachefet al pnei amayim ». À la fin, pratiquement à la fin du premier jour, il est dit que le souffle d'Elohim planait au-dessus des eaux. Et le commentaire explique « Shegam hu babina » que ça fait allusion à la bina. Pourquoi la bina plane au-dessus des eaux? Parce que les eaux représentent le monde d'en bas, les eaux représentent le monde matériel. Comme on le voit dans le deuxième jour, il n'y avait au départ que des eaux. Et après, Hachem a repoussé les eaux pour qu'apparaisse aussi la terre. Mais en tout cas, selon les codes bibliques, le tout début de la création n'était qu'avec des eaux. Et pourquoi on dit que le nom d'Elohim plane au-dessus de l'eau? Parce que justement, comme on l'a expliqué de nombreuses fois, la Bina est une Sphira, est une force divine qui est complètement au-dessus de ce monde, puisque le monde a été créé en 7 jours, alors que la Bina est du bas vers le haut, la 8e Sphira qui est au-dessus de ce monde, et donc elle contient des forces qui sont complètement, on pourrait dire, complètement libérées de toutes les limites de ce monde, et c'est pour ça qu'elle plane au-dessus de ce monde, elle est au-dessus de ce monde. On continue. Et Maïd Kar Zimna Achara. Le Zohar demande, vous avez remarqué que, bon, pour ceux qui comprennent l'hébreu, le Zohar est en araméen. Par contre, les commentaires, eux, sont en hébreu. Donc le Zohar demande, et Maïd Kar Zimna Achara, pourquoi on mentionne à nouveau le nom d'Elohim pour la troisième fois? Alors, Allo Mishem Elohim Arishon Anu Yodim She Nehemar Alabina, parce qu'on a déjà expliqué qu'au tout début de la Torah, à chaque fois qu'apparaît le nom Elohim, ça fait allusion à la Bina. En vérité, le nom Elohim fait allusion à la Bina, mais fait aussi allusion à la Malchut lorsque la Malchut est unie à la Bina. Traduit en français, la Bina est le monde d'en haut, la Malchut est le monde d'en bas, les deux s'appellent Elohim. Parce que quand la Malchut, quand le monde d'en bas s'unit et se fonde dans le monde d'en haut, il y a une connexion totale et profonde entre le monde d'en bas et le monde d'en haut, alors le nom Elohim qui est au niveau de la Bina descend aussi au niveau de la Malchut, au niveau du monde d'en bas. Et donc, « Begin le'afka chamesh ilin takifin ». Alors pourquoi? Encore une fois, le Zohar demande pourquoi le nom Elohim est mentionné une troisième fois. Parce que le maître du monde voulait sortir cinq forces extrêmement puissantes qui correspondent par rapport à la rose à cinq feuilles. Ces cinq feuilles font allusion à cinq forces takifim extrêmement puissantes. Je lis maintenant le commentaire en hébreu. Afin de faire sortir dans cette rose qu'on appelle la Shoshana, faire sortir cinq feuilles qui représentent cinq forces extrêmement puissantes. Je vais bien sûr expliquer. Verot Selomar, c'est-à-dire, vous remarquerez qu'entre le deuxième nom Elohim et le troisième nom Elohim, il y a cinq mots. Ces cinq mots font allusion aux cinq forces qui vont sortir grâce au fait que l'on mentionne pour la troisième fois le nom Elohim. Odienu akatuv, la Torah veut nous faire comprendre chez Abina, que l'attribut de la Bina, qui est au-dessus de ce monde, Otsia od bechina chadasha, a fait sortir de nouvelles forces qui sont Chamisha chassadim, traduction en français, qui sont cinq forces de bonté, Venikraim takifim, et pourquoi elles sont appelées puissantes et fortes, Alchem peulatam, à cause justement de leur action. On va expliquer dans quelques instants. Des Sakharim les Shoshana, ces cinq feuilles qui représentent cinq forces très puissantes de bonté, entourent, sont tout autour de la tige de la rose qui représente la Malchut, chez le monde d'en bas. Chez Mesavevim et Ashrina, Betokef, elles contournent, d'une certaine manière, elles protègent la Malchut authentique, le monde d'en bas authentique. Elle le protège, les chomra marizat achitim, pour empêcher toutes les forces contraires de venir s'accrocher à cette malchut pour la détruire. Ve'inun chamesh, et elles sont au nombre de cinq. Ikrun yeshuot, et elles s'appellent aussi yeshuot, délivrance. Ces cinq forces puissantes de la bonté sont aussi cinq forces de la délivrance. Ve'nikraim yeshuot, comme il est dit, Oshia lo yemino, que la droite me sauvera, c'est un verset, et la droite fait allusion, comme on le sait selon les codes bibliques, surtout les codes de nos maîtres, la droite fait allusion à la bonté, la gauche fait allusion à la rigueur. Donc la droite c'est la bonté, veyamin aynu achesed, la droite fait allusion à la bonté, ki al yadam efshar le oshia et ashrina, qui grâce à la bonté, on peut sauver la Shrina, on peut sauver la lumière de Dieu qui est cachée dans ce monde, la sauver de toutes les forces contraires qui veulent chasser la lumière de Dieu de ce monde afin de déconnecter le monde d'en bas du monde d'en haut. Je continue encore un petit peu et je termine le paragraphe. Ve'inun chamesh tar'in, pirush achamisha chassadim, ces cinq forces de la bonté, emsod chamisha sharebina, font allusion aux 50 portes de la Bina, 5, 50, parce que chacune de ces forces contient, on pourrait dire, 10 forces, et 5 fois 10, 50, c'est pour ça qu'on dit que la Bina possède les 50 portes de la délivrance, qui sont en vérité 50 lumières de la délivrance, et donc ces 5 portes, qui chacune d'entre elles contient 10 forces, qui, et donc, Yesh bekocham le'amtik et dinei ha'malchut, et le but de l'union entre la Bina et la Malchut, c'est afin d'adoucir toutes les attaques et toutes les rigueurs et toutes les clipotes, toutes les écorces, on pourrait dire toutes les forces maléfiques sataniques qui s'attaquent à la Malchut, c'est-à-dire au dévoilement de Dieu comme roi dans ce monde. Et donc ukshemit gabrim adinim, et quand il y a trop d'attaques contre la Malchut, Ve'yefchar le'amtikan, et on n'arrive plus véritablement à la sauver, alors c'est ces 5 forces qui agissent, ce qu'on appelle les 50 portes de la Bina, qui sont les 50 portes de la délivrance, qui agissent pour protéger la Malchut. Alors, j'ai lu, un peu expliqué, et je vais rentrer un peu plus dans les détails. Pourquoi, justement, la Bina fait sortir ces cinq forces, qui sont les cinq forces de la bonté? Alors, bien sûr, j'ai traduit en français d'une manière extrêmement éloignée du sens profond du mot « chesed ». Comme j'ai déjà expliqué, le mot « chesed », j'ai traduit par « bonté », j'avais pas le choix, mais en vérité, je vais vous l'expliquer d'une manière beaucoup, beaucoup plus profonde, car en vérité, le « chesed », c'est pas la bonté. C'est lui la bonté, mais pas comme on le comprend dans le langage de tous les jours. Il y a un verset qui dit « Olam chesed yibane ». Le monde sera reconstruit grâce au chesed. Et nos maîtres se posent la question. C'est un futur, le monde sera reconstruit, donc ça fait allusion à la délivrance. Et comment le monde sera reconstruit? Le monde ne pourra être reconstruit au moment de la délivrance que lorsqu'il y aura suffisamment d'hommes et de femmes qui s'uniront au Mashiach et tous ensemble, ils lutteront contre tout le mal, toute la corruption, toute l'idolâtrie, toute la débauche qu'il y a dans ce monde. Ils nettoieront ce monde, ils purifieront ce monde de toutes les forces impures qui, jusqu'à aujourd'hui et depuis la faute de Adam, dominent notre monde et nous dirigent et d'une certaine manière nous écrasent. Soit nous écrase d'une manière visible, soit dans la démocratie nous écrase d'une manière invisible, c'est-à-dire finalement il nous endorme avec tous les plaisirs de ce monde pour que l'homme ne se révolte plus. Mais d'une certaine manière, il est écrasé aussi. Et donc la Bina, encore une fois, elle vient d'une certaine manière donner des forces au monde d'en bas pour que le monde d'en bas puisse arriver à ne pas être complètement, totalement écrasé, exterminé au profit des grandes puissances maléfiques qui veulent dominer ce monde et écraser l'humanité tout entière. Et donc, qu'est-ce que c'est la Bina ? Encore une fois, la Bina, c'est une force qui est au-dessus de ce monde. Qu'est-ce que cela signifie dans un langage beaucoup plus clair ? Ce monde dans lequel nous vivons est extrêmement limité. J'ai souvent donné l'exemple, le feu ne peut pas s'unir à l'eau, l'eau ne peut pas s'unir au feu. Tu ne peux pas être en même temps en France et en Amérique. Tu ne peux pas être au nord et en même temps au sud. Tu ne peux pas être un homme et en même temps être une femme. Tu ne peux pas être âgé et en même temps être un enfant. Ça veut dire que nous vivons dans des limites. Si j'ai 50 ans, je ne peux pas avoir 15 ans. Si je suis un homme, je ne peux pas être une femme. Si je suis en France, je ne peux pas être en Amérique. Chacun est dans son système. Maintenant, ça va beaucoup plus loin que ça. Sur le plan politique, je suis de gauche, je suis de droite. Sur le plan religieux, je suis de telle tendance ou de telle tendance, de telle religion, de telle religion. Chaque homme est complètement coincé dans son système et finalement est prisonnier à l'intérieur de son système. Malheureusement, l'orgueil nous fait croire que le système dans lequel on est enfermé est le meilleur du monde et on voudrait que tous rejoignent notre système. C'est ce qu'on appelle le fanatisme, l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, chaque homme est enfermé dans son système. Et donc, il perd sa dimension d'homme authentique. Pourquoi il perd sa dimension d'homme authentique ? Parce qu'un homme authentique est celui qui comprend qu'en vérité, que chaque homme représente une partie de, on peut dire une partie qu'il manque à l'autre, et en étant ensemble, on se complète, et en unissant l'humanité tout entière, on arrive à la grande image, on arrive au vrai Dieu. Exactement l'exemple que je donne souvent, qui est l'exemple d'un puzzle, chaque morceau est différent. Mais quand tu unis tous les morceaux, tu as enfin la grande image. Tant que tu n'auras pas réuni tous les morceaux, tu n'auras pas la grande image. Ce qui veut dire que personne aujourd'hui ne peut prétendre connaître le vrai Dieu. Ni Israël, ni les chrétiens, ni les musulmans, ni les Français, ni les Américains, ni les Israéliens, ni les Chinois, ni les Russes. Pourquoi ? Parce qu'il y a des tensions et d'une certaine manière des querelles entre tous les peuples, entre toutes les religions, entre toutes les idéologies. Nous ne sommes pas unis. Et chacun vit dans son fantasme et dans son illusion de croire que lui a le vrai Dieu. Et c'est une erreur fondamentale, terrible. Parce que nous sommes tous comme des pièces d'un puzzle. Tant que nous ne serons pas réunis, nous ne pourrons pas avoir l'image du vrai Dieu. Quelle est la preuve de ce que je dis ? Le verset au moment de la délivrance dit clairement « Bayom ahou yeh Hashem echad ». En ce jour, Dieu sera un. Ça veut dire qu'on aura enfin réuni toutes les pièces qui manquaient à l'unité de Dieu. Et pour l'instant, même Israël n'a qu'une partie de Dieu. Personne n'a tout le Dieu. Pourquoi ? Parce que personne n'est uni avec les autres. Qu'est-ce que c'est la Bina ? La Bina, c'est la force de l'union. Pourquoi ? Parce que la Bina est une force qui nous fait sortir du système dans lequel, à l'intérieur duquel, nous sommes prisonniers. La Bina se dévoile chez quelqu'un qui a la force de sortir de sa nature. Ça veut dire, je suis juif, mais je m'intéresse aussi aux chrétiens, je m'intéresse aussi aux musulmans, je m'intéresse aux chinois, je m'intéresse aux japonais. Si j'ai quelqu'un qui me contacte et qui me dit « je voudrais un contact avec vous », je ne vais pas lui dire « ah non, tu es catholique, tu ne m'intéresses pas. Ah non, tu es musulman, tu ne m'intéresses pas. » Non, parce que je sais au plus profond de moi que pour qu'il y ait la délivrance, il faut que toute l'humanité soit unie. Et donc, ça ne veut pas dire que je vais changer mes idées. Jamais de la vie. Si je suis juif, je reste juif. Mais je peux m'unir à un chrétien, je peux m'unir à un musulman, je peux m'unir à un laïc, je peux m'unir à un bouddhiste, je peux m'unir à qui que ce soit, même si je ne partagerai en aucun cas ses idées. Mais comme je l'ai déjà expliqué des milliers de fois, ce n'est pas l'idée qui m'intéresse, c'est l'homme. Et il y a des musulmans qui sont des hommes extraordinaires, et j'en connais moi en Israël. Il y a des chrétiens qui sont des hommes ou des femmes extraordinaires, et j'ai des élèves partout dans le monde qui sont chrétiens, qui sont des gens extraordinaires. Il y a aussi des laïcs qui sont des gens extraordinaires. Arrête de regarder la pensée, l'idéologie, la religion de l'homme. Regarde ce qu'il est. Et quand tu vas comprendre et découvrir ce qu'il est, tu vas te rendre compte que tu n'en as rien à faire de ce qu'il croit. C'est pas ton problème, c'est accessoire par rapport à l'homme. Et ça, c'est la Bina. Le monde d'en bas est un monde dans lequel nous sommes emprisonnés et emprisonnés dans une prison de ce que je pourrais appeler l'idéal. Je suis juif, tu es chrétien, tu es musulman, allez vous faire voir, vous m'intéressez pas, je suis de droite, tu es de gauche, va te faire voir, tu m'intéresses pas. Qu'est-ce que c'est la Bina? La Bina, elle met en évidence l'homme. Et quand on met en évidence l'homme, on se rend compte que malgré le fait qu'il est hors de question que je partage ton idéologie, mais malgré tout, je te respecte parce que je sais que tu es un homme bien. Maintenant, c'est sûr, il y a des hommes mauvais partout aussi. Mais ce n'est pas parce que je suis catholique et que je me prosterne devant une statue de Marie que je suis forcément un homme pas bien. Je peux être un homme bien même si je rentre dans une église et que je me prosterne devant une statue et que pour nous les juifs c'est considéré comme de l'idolâtrie. Parce que je ne vais pas te juger selon ce que tu fais à l'église, je vais te juger selon ta vie de tous les jours. Et c'est ça la différence entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Le monde d'en haut nous emprisonne dans l'idéologie, c'est pour ça qu'il y a tellement de guerres, tellement de massacres, tellement de haine, tellement de racisme, tellement d'antisémitisme. Parce qu'on ne regarde pas l'homme, on regarde ses idées. Mais le monde d'en haut, il met en évidence l'homme. Regarde l'homme. Ne regarde pas ses idées. Et ça, c'est le monde de la Bina. Et vous savez d'où je le sais? Nos maîtres nous disent, c'est quoi la Bina? Le avin davar mitor davar. Traduit en français, regarde l'intériorité, pas l'extériorité. C'est-à-dire en français, ne regarde pas ce qu'il pense, ne regarde pas ce qu'il fait, regarde son intériorité, regarde son être, regarde ce qu'il est. Et tu vas t'apercevoir qu'il y a des gens extraordinaires partout dans le monde, même si tu as raison de ne pas partager leurs idées. Sur le plan humain, dans leur intériorité, dans leur être, ce sont des gens extraordinaires. Donc tu peux être leur ami, même si tu ne partageras pas leurs idées. Ça, c'est le monde de la Bina. Alors maintenant, qu'est-ce que signifie « Olam Chesed Yibane » ? Le Chesed, c'est reconstruire le monde. Pour reconstruire le monde, vous savez ce que c'est le vrai Chesed ? Le vrai Chesed, c'est pas « Oh, je t'aime, tiens, prends 10 shekels et va manger. » C'est sûr que c'est bien de le faire. C'est pas ça le vrai Chesed. « Olam Chesed Yibane » Le monde sera reconstruit grâce à la bonté. Bon, j'aime pas la traduction, excusez-moi. Grâce au Chesed, ça veut dire quoi ? Le jour où se lèvera dans ce monde une armée d'hommes et de femmes de tous les pays qui s'uniront au Mashiach et qui lutteront contre le mal afin de nettoyer ce monde. Ça, c'est le plus grand chesed que l'on puisse faire au monde. Le nettoyer de toutes les saletés, de toutes les scories, de toutes les impuretés, de toutes les fautes qui dominent ce monde. Ça, c'est le vrai chesed. Le chesed, c'est pas « Tiens, mon pauvre, prends 5 shekels, prends 5 euros. » Je dis pas qu'il faut pas le faire. Mais le chesed, c'est se battre contre toutes les impuretés qu'il y a dans ce monde afin de reconstruire ce monde et réunir Dieu à son monde. Comme il dit « En ce jour, Dieu sera roi sur toute la terre. » Alors maintenant, vous comprenez pourquoi le Zohar dit que ces cinq forces de la bonté sont des forces extrêmement puissantes. J'ai besoin d'être puissant pour donner 5 euros à un pauvre. Tiens, prends 5 euros. Pourquoi être puissant? Parce que le Zohar fait allusion à ce que j'ai expliqué. Le vrai chesed, c'est se battre contre le mal qu'il y a dans ce monde. Il n'y a pas un chesed plus grand que celui-là. Et se battre contre le mal qu'il y a dans le monde, ça nous demande des forces inimaginables. Et d'où on va puiser ces forces? De la Bina. Pourquoi de la Bina? Parce que la Bina nous extrait de notre prison. Parce que tant qu'on est dans notre prison, je suis catholique, je ne m'intéresse qu'aux catholiques. Je suis juif, je ne m'intéresse qu'aux juifs. Je suis musulman, je m'intéresse qu'aux musulmans. Eh bien, en vérité, vous savez ce qu'on est? On est comme dans une prison. On a 4 mètres dans lesquels on peut bouger et c'est tout. C'est-à-dire qu'on est extrêmement faible. Extrêmement faible. Et vous savez pourquoi, justement, celui qui est enfermé dans son idéologie s'attaque aux autres? Parce que, justement, il s'attaque aux autres parce qu'en vérité, il veut les détruire. Et pourquoi il veut les détruire? Parce que, finalement, d'une certaine manière, il n'a pas la force de pouvoir s'unir à son contraire. Donc, il préfère les détruire. C'est ça le fanatisme, c'est ça l'extrémisme, c'est ça le racisme, c'est ça l'antisémitisme. C'est ça. On détruit l'autre parce qu'on n'a pas la force de s'unir à lui. Et donc maintenant, on comprend pourquoi ces 5 forces qui vont nous aider à purifier ce monde viennent de la Bina. Parce que la Bina, elle nous sort de notre prison. La Bina, elle fait de nous des hommes qui voulons s'unir à tous les hommes. En tout cas, tous les hommes bien de ce monde, quelle que soit leur idéologie. Et c'est ce qui va se passer au moment du Mashiach. Quand le Mashiach va se dévoiler, je vous l'affirme et vous verrez que j'ai raison. Des musulmans vont venir avec lui, des chrétiens vont venir avec lui, des laïcs vont venir avec lui. Bien sûr, évidemment, des juifs vont venir avec lui. Mais peut-être aussi des hindouistes, des bouddhistes, des hommes et des femmes du monde entier vont venir avec lui. Le Mashiach va leur dire, ah non, toi t'es catholique, retourne dans ton église. Ah, toi t'es bouddhiste, retourne chez Bouddha. Non, le Mashiach sera un homme authentique. Il va tous les accepter. Avec le temps, chacun arrivera à purifier sa croyance, purifier sa religion. Mais ça prendra du temps. Mais dans un premier temps, il les acceptera tous. C'est pas moi qui le dis, c'est le Zohar. Le Zohar dit explicitement qu'au moment où le Mashiach se dévoilera, les premiers qui s'uniront à lui seront des hommes et des femmes des nations. C'est-à-dire quoi? Ils vont devenir juifs? Pas du tout. Ils vont se convertir? Pas du tout. Des milliers d'entre eux seront encore à ce moment-là catholiques, ou musulmans, ou bouddhistes, ou hindouistes. Et le Mashiach les acceptera. Pourquoi? Parce qu'il sait que la purification de ce monde dépend de l'unité entre les hommes. Après, l'idéologie, on la traitera plus tard. Mais dans un premier temps, s'unir avec des hommes authentiques. Tous ceux qui viendront chez le Mashiach sont forcément des hommes et des femmes authentiques, puisqu'ils s'unissent à lui pour purifier le monde. Alors, ce que tu penses ne m'intéresse pas pour l'instant. Ce qui compte, c'est ton être. Ton être, tu es un homme bien. Viens, je t'accepte dans mes rangs. Ça, c'est le sort de la Bina. Alors maintenant, comme le Zohar l'explique, la Bina, elle protège la Malchut. Pourquoi? La Malchut, comme je l'ai déjà expliqué des dizaines de fois, c'est cet effort que fait l'homme pour dévoiler Dieu comme roi dans ce monde. Ça veut dire comme le vrai, le seul et l'authentique dirigeant de ce monde. Ça, c'est la Malchut. Quel est l'attribut divin qui est le plus attaqué de tous? La Malchut, pourquoi? Parce que les méchants de ce monde ne veulent pas que Dieu se dévoile comme roi dans ce monde. Parce que chacun veut le pouvoir pour lui, l'argent, le pouvoir, les plaisirs, etc. Donc, quelle est en vérité, on pourrait dire, la pensée ou l'idéologie qui est la plus attaquée dans ce monde? Mais c'est celle de ceux qui veulent dévoiler Dieu comme roi dans ce monde. Pour montrer que finalement c'est toujours lui qui a dirigé le monde, et les hommes ont cru que c'est eux qui le dirigeaient, mais ils verront un jour que, comme dit le roi David, « Azaïnou kecholmim » au moment de la délivrance, tout le monde comprendra qu'on était dans un rêve, on vivait dans une illusion totale. « Je suis riche, je suis le dirigeant, mais en vérité, tu es manipulé par Dieu et tu t'en rends même pas compte. » Et au moment de la délivrance, tout le monde va se réveiller, tout le monde va comprendre à quel point on était manipulé. Surtout les forces impures, les riches, les dirigeants, etc. Toutes ces forces impures qui veulent dominer le monde. Surtout eux. Donc, ces cinq forces protègent la malchoute. Pourquoi elles protègent la malchoute? Pourquoi? Parce que, comme disent nos maîtres, dans chaque génération, il y a au moins 36 justes authentiques qui protègent la malchoute. Mais 36 justes nistarim, cachés. Personne ne sait où ils sont. Ce n'est pas les rabbanim que tout le monde connaît, ce n'est pas les maîtres de sectes, etc., ou de mouvements que tout le monde connaît. Non. Nos maîtres disent 36 justes cachés. Shloshim veshesh tzadikim nistarim, cachés. Et pourquoi ils sont cachés? Parce que comme ils protègent justement la malroute, s'ils étaient dévoilés, ils seraient les premiers à être attaqués et à mourir de maladie ou être assassinés ou je ne sais quoi. Donc c'est pour ça que Dieu les cache. Mais en cachette, ils font un travail extraordinaire de protéger la malroute. Et comment ils protègent la malroute? Parce que toute leur vie et leurs enseignements aussi tournent autour de ce point-là. Dévoiler Dieu comme roi de ce monde. Et c'est pour ça qu'on les appelle les 36 justes cachés. Ils sont cachés encore une fois pour être protégés de toutes les forces sataniques qui veulent tuer la malroute et tuer tous ceux qui protègent la malroute. Comme on le sait, dans un combat, la première chose qu'on essaye de faire, c'est de faire tomber le bouclier de l'autre pour pouvoir après le tuer. Tant qu'il a son bouclier, c'est très difficile. Donc les premiers, s'ils se montraient, les premiers qui seraient immédiatement assassinés, ça serait justement ceux qui sont les boucliers de la malroute, les 36 justes cachés. Maintenant, il y a peut-être des générations, il y a beaucoup plus que 36 justes. Mais nos maîtres nous disent qu'au minimum, dans chaque génération, il y a 36 justes cachés. Et ceux-là, on ne sait pas où ils sont. Mais ils font un travail inimaginable pour préparer la délivrance finale. On continue. Val razada alpisod zeshepirachnu. D'après ce qu'on a expliqué, je suis dans le commentaire en hébreu, que la lumière divine qui est dans ce monde reçoit des cinq forces, d'une certaine manière son sauvetage, de toutes les forces contraires qui veulent la tuer. C'est pour ça que ces forces s'appellent aussi sauvées, parce qu'elles protègent et sauvent la malroute de cette volonté qu'on s'efforce de la détruire complètement. Ktiv, Kos Yeshuot Essa. Il y a un verset du roi David qui dit Kos Yeshuot Essa. Le verre de la délivrance, je le lève. En vérité, quand on fait le kiddush le vendredi soir, on prend notre verre de vin dans la main, on parle d'un verre de vin bien sûr, et on l'élève. Et c'est à ça que fait allusion le roi David quand il dit « Kos Yeshuot Essa, je lève mon verre de vin ». Da Kos Shel Bracha, le fameux verre que l'on élève avant de rentrer dans le repas du Shabbat et qu'on fait le kiddush avant le Shabbat, nos maîtres disent dans le Zohar « Da Kos Shel Bracha ». C'est en vérité un verre de bénédiction. « Sheusod Ashrina » qui cache le secret de la lumière de Dieu qui est cachée dans ce monde. Et la lumière de Dieu qui est cachée dans ce monde nous apporte la bénédiction. Pour ceux qui se connectent à cette lumière qui est cachée dans ce monde, ça veut dire concrètement ceux qui savent que même si on ne le voit pas, même si on a du mal à le comprendre, Dieu est oui dans ce monde. Et ceux qui comprennent et qui ont une émouna, qui ont une connexion totale avec Dieu dans ce monde, ceux-là reçoivent une bénédiction inimaginable. Ça veut dire qu'ils sont aidés par Dieu pour réussir dans tous les domaines. Kos shel bracha itztarir lemiave al chamesh etzba'an. Maintenant, quand on prend le kos de la bracha, on le met sur la main droite, la main de la bonté, et on la pose, le verre, on le pose sur les cinq doigts de la main, qui font allusion aux cinq forces qui protègent justement la malchoute. Veloyatir, on ne peut pas mettre la main gauche sous la main droite. Non, c'est que la main droite. Il faut qu'il y ait cinq doigts qui font allusion aux cinq forces qui protègent la malchoute. Koshel bracha, itzari le miave la chameshet zbaad, velo yatir, pas plus que cinq doigts. Ke gavna de shoshana de yadva la chamesh alin takifin, comme la rose qui est entourée de ses cinq feuilles. On va s'arrêter là pour le texte et je vais expliquer pourquoi tout d'un coup il parle maintenant du kos, du verre qui est sur les cinq doigts. Ben, il veut nous faire comprendre une chose évidente, mes amis, que finalement, que l'homme a été créé pour l'action. La main représente l'action. La main représente en hébreu la assia, le fait de faire. La pensée, le cœur, c'est très théorique. Même si l'action est guidée par la pensée et le cœur, mais quoi qu'il en soit, tant que tu n'agis pas, tu ne peux pas changer ce monde. Donc voilà pourquoi on fait le kiddush le vendredi soir. On fait le kiddush pour nous faire comprendre que l'homme authentique est un homme d'action, un homme qui agit dans ce monde. Un homme qui agit, ça peut être aussi par ses enseignements, parce qu'il va réveiller des milliers ou des millions d'hommes et de femmes dans le monde. C'est aussi une forme d'action. Mais en vérité, la véritable action sera au moment où le Mashiach se dévoilera et que des millions d'hommes et de femmes s'uniront à lui pour pouvoir véritablement se battre contre le mal. Et maintenant, qu'est-ce que représente le vin? Nos maîtres nous disent que le vin représente la bina. L'huile d'olive représente la chokhma, la sagesse, et le vin représente la bina. Donc on a vraiment exactement tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, comme l'explique le Zohar. Tu prends un verre, tu mets dedans du vin qui représente la bina, et tu le tiens sur les cinq doigts qui font allusion aux cinq forces de la bina, mais qui font aussi allusion à l'action. Ce qu'on veut te faire comprendre, c'est que tant que tu n'es pas un homme qui agit, tant que tu n'es pas un homme qui sort dans la rue pour faire quelque chose, tu n'es pas un homme authentique. Ça veut dire que ceux qui ne font que prier, que étudier, ne sont pas des hommes authentiques. Un homme authentique, c'est le roi David. Il avait un temps pour prier, un temps pour étudier. Il étudiait énormément, il priait énormément. Mais quand il fallait sortir sur son cheval avec une épée à la main, il sortait sur son cheval avec une épée à la main. Et il ne se disait pas, ah non, moi je suis religieux, je reste à la yeshiva. Comme tous ces mensonges qu'on entend jusqu'à aujourd'hui. Non, un homme authentique est un homme qui sait que quand il faut agir, il doit agir. Et pas se réfugier dans des livres de prière ou dans des livres d'études. Il agit, il sort, il se bat, c'est un combattant. C'est pour ça que la main représente justement le combat. Et pourquoi le verre? Le verre représente la malchoute. La malchoute qui s'unit au vin. Le vin rentre dans la malchoute, le monde d'en haut descend et se dévoile dans le monde d'en bas. Comme disent nos maîtres, le kli, qui veut dire le réceptacle en français, fait allusion à la malchoute. D'ailleurs, dans le mot kli, qui veut dire réceptacle, vous avez le kaf, Kohen, lamed, Lévi, yud, Israël. Les trois parties d'Israël, Kohen, Lévi, Israël, et qui font allusion à la malchoute. Donc en vérité, le kiddush représente l'union entre la bina, les forces qui viennent d'en haut, et la malchoute, le monde d'en bas, qui est sur la main, le monde de l'action, et avec les cinq doigts qui sont les cinq forces qui nous permettront de purifier ce monde. Voilà mes amis, ce message extrêmement important du Zohar, qui veut nous faire comprendre une fois de plus que l'homme n'a pas été créé uniquement pour... du côté des laïcs, de ne servir que son ego et ses intérêts personnels. Du côté des religieux, pour croire que Dieu est notre sauveur, c'est lui qui fera tout, et nous on a juste à prier et lui demander d'intervenir. L'homme authentique est l'homme qui arrive à unir, réunir le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Il sait quand il faut prier, il sait quand il faut étudier, mais il sait aussi quand il faut monter sur un cheval avec une épée sur la main et se battre contre tous les méchants qu'il y a dans ce monde. Amen, Vechen Yehi Ratzon.